va pas circuler les bêtes comme ça.
Qui sont censés défendre la veuve et l'orphelin.
Et quand il y a quelque chose, votre carrosserie, c'est votre peau.
Donc, du coup, je pense véritablement que...
Il ne faut pas perdre du temps sur des revendications, excusez-moi, qui n'en valent pas la peine.
Les gens se lèvent le matin à 7h, ils disputent la route avec les gros camions.
Les surcharges sur les tricycles, on en voit tous les jours.
Actualité politique, art, culture et sport, société, croissance économique, santé, éducation, environnement, développement durable. Tout le Togo au quotidien des grandes villes et localités les plus reculées. Canal FM, la radio qui est plus proche de vous.
Canal FM.
Je suis très heureux de vous retrouver sur la nouvelle génération. Bonjour, merci de nous choisir. Vous savez que quand il sonne 11h, nous sommes ensemble pour 90 minutes d'information et de débat aussi sur votre radio, la nouvelle génération. Le Togo, notre pays, va connaître ses premières élections sénatoriales le 2 février 2025. La campagne électorale couvre la période du 17 au 31 janvier 2025. La caution est fixée à 300 000 francs CFA pour les candidats de sexe féminin, de sexe masculin, j'allais dire, et les femmes qui seront candidates à ces élections vont débourser la moitié, c'est-à-dire 150 000 francs CFA. Ceci marque un pas important dans la mise en place des institutions de la 5e République. Que comprendre de ces élections sénatoriales que le Togo organise pour la première fois dans son histoire? Le Togo a-t-il vraiment besoin d'un Sénat? Je poserai la question à mes confrères journalistes en studio avec moi. Nous aborderons également d'autres sujets liés à l'actualité de notre pays, du continent africain aussi, alors du monde entier. Et bien sûr, merci alors de suivre le Club de la Presse alors de ce jeudi 5 décembre 2024. Merci d'être là. Pour la coordination de l'émission de ce jour, Michel Kokou, Vitokbe Tomega est à la mise en onde. La mise en ligne est assurée par Jérôme Dakoucha. Je suis Pascal Lousseau au micro. Nos salutations fraternelles à vous tous qui nous suivez partout au Togo grâce à nos radios partenaires. Radio Lumière à Anéko, Radio La Paix à Takpamé, Central FM à Sokodé, Sky FM à Badou, Radio Daoul à Bassa, Sama FM à Niamtougou et puis Radio Courtoisie à Dapao. Vous nous suivez aussi partout dans le monde grâce à nos différentes plateformes digitales, notamment notre chaîne YouTube et aussi notre page Facebook. Mais vous pouvez aussi nous suivre alors sur nos radios partenaires en ligne, Ibn Radio et Radio Les Bénins. Club de la Presse, vous le savez très bien, c'est le décryptage, l'analyse, le débat, le commentaire sur l'actualité de notre pays, le Togo et également des autres horizons. Merci de nous choisir. C'est toujours avec nos confrères journalistes en studio avec moi, Michel Yao Tadza. Bonjour.
Bonjour Pascal, bonjour Canal FM.
J'espère que vous allez bien.
Oh, par la grâce de Dieu, comme tu le vois, bon. Ça peut aller.
Ça peut aller. Merci d'avoir répondu à notre invitation.
C'est avec plaisir.
L'autre confrère qui a aussi répondu à notre invitation, c'est Elom Kossier à Tissoubé. Elom, bonjour.
Bonjour, bonjour Pascal, bonjour à toutes et à tous. Je voudrais dire, profiter de l'occasion pour dire quelque chose. C'est vrai que tout le temps, quand on vient sur le plateau, on parle de cette loi, cette fameuse loi sur l'immobilier, la caution à 6 mois, 3 mois de loyer, 3 mois de caution, j'allais dire. C'est toujours pas respecté. Il faut véritablement que le gouvernement puisse faire le suivi de cette loi afin qu'elle soit appliquée dans toute sa, dans tout son contenu. Parce qu'aujourd'hui, vous voyez, moi, la dernière fois, j'ai été interpellé sur un cas où quelqu'un louait une boutique avec une avance de 2 ans. La boutique, le loyer, c'était 100 000 francs. Donc, si tu veux prendre la boutique, tu payes 2 400 000. Tu verses ça d'un coup, quoi. Tu vois. Alors que l'État, aujourd'hui, a dit 6 mois. 3 mois de loyer, 3 mois de caution. Et voilà des gens qui voilà, ont des boutiques et qui, d'abord, mettent le loyer à prix d'or. 100 000 francs par mois. 2 ans de caution. 2 400 000. Pour faire quel business, moi, je sais pas. Mais bon, il va falloir qu'on puisse vraiment revoir ce côté.
Merci. Il va falloir qu'on puisse vraiment revoir ce côté. Merci pour cette interpellation. Ambroise Yaouk, bonjour. Bonjour.
Bonjour. Bonjour tout le monde. Je voudrais profiter pour... vous allez voir à la manchette un titre en rouge, en blanc, sur fond rouge. Éviter de dégrader la route. Ce n'est pas écrit de façon anodine. C'est juste pour... attirer l'attention de ceux-là qui, par plaisir ou par incivisme, dégradent la route avec des gros véhicules, des fois qui stationnent, des fois c'est des barres de fer que les tricycles transportent, qui franchement mettent en mal la route. Certains même se permettent de creuser une partie de la route du bitume, pour, je ne sais même pas pourquoi. Et donc, tout cela participe aux accidents de circulation. C'est pour en arriver là. Tant on accuse les motocyclistes, les tricycles, il faut que ceux-là aussi qui se comportent de cette manière, qui dégradent la route, cessent de le faire. Parce que une route, selon les informations que nous avons, un kilomètre de route coûte, je crois...
pratiquement un milliard d'après ce que nous avons comme information.
C'est plus que ça, hein. C'est plus que ça. Donc, bref. C'est de l'argent. La route coûte beaucoup. C'est vrai que des fois aussi, ça se dégrade vite de part en droit. Mais quand on investit pour construire la route, il va falloir que nous, qui l'utilisons, nous les usagers, en plus, la préserver.
D'accord. Merci beaucoup, Ambroise, d'avoir aussi répondu à notre invitation. Et je ne le laisse pas s'installer avant de lui dire un petit bonjour. Jean-Paul Rigny, bonjour.
Bonjour Pascal, bonjour aux confrères en studio, bonjour à toutes celles et ceux qui nous écoutent sur Canal FM.
J'espère que vous allez bien.
Tout va bien, par la grâce de Dieu, tant qu'on a la vie, on a la santé, on ne peut que dire merci.
C'est ça, on ne peut que dire merci. Nous avons un invité, cet invité c'est bien Monsieur Landry Duvaux. Monsieur Landry, bonjour.
Oui, bonjour à tous.
J'espère
bonjour.
Que vous allez bien.
Oui, super, super bien, Dieu merci.
D'accord. Vous êtes responsable commercial de la société Sun King Soliva Togo. Vous exercez plus alors dans l'énergie. Oui. Alors, quand on prend votre société aujourd'hui, est-ce que vous pouvez nous présenter brièvement cette société?
D'accord. Alors, je m'appelle Landry Duvaux, comme vient de le dire Monsieur Pascal. Et c'est un plaisir pour moi de distribuer la bonne nouvelle de notre société qui s'appelle Sun King Soliva. Donc nous sommes société dans l'énergie solaire et notre objectif premier c'est d'illuminer la vie de toutes les personnes qui sont dans ce besoin-là d'avoir de l'électricité ou bien d'avoir la lumière. Donc notre premier objectif c'est de répandre la lumière par nos produits qui sont des objets, qui sont des matériaux, qui sont des onduleurs, qui sont des lampes, qui sont des home systems pour permettre à ce que même quand tu es installé dans un coin assez éloigné, assez enclavé, tu puisses avoir la lumière et avoir une vie illuminée. Donc c'est notre objectif principal et nous sommes au Togo depuis un certain nombre d'années et nous sommes en train de faire ce travail là avec joie.
Alors concrètement, pourquoi vous avez choisi l'énergie solaire?
Alors, c'est un constat qui a été fait par le créateur de cette société, il s'appelle Patrick Walsh. C'est un jeune Américain qui était aux études au niveau des Indes. Et il a constaté que dans ses missions, ou bien dans ses parcours de stage, il a constaté qu'il y a des lieux tellement enclavés, malgré les efforts des gouvernements, qui n'arrivent toujours pas à avoir l'accès à la lumière. Donc, ce qui rend la vie un peu difficile dans ces lieux-là. Donc, il a essayé de développer... un outil qui permet, avec un panneau solaire, qui chauffe et qui ramène de l'énergie pour allumer juste la lampe, avoir de la lumière pour que en période de nuit ou bien en période de ténèbres, tu puisses carrément t'occuper, être vraiment dans cette liberté-là de cuisiner dehors, d'avoir l'électricité pour que les enfants en prennent, pour d'avoir une vie assez illuminée. Donc l'idée, c'est d'apporter cette solution-là à des prix abordables, à des coûts vraiment vraiment facile pour chaque personne puisse avoir ce joyau là d'avoir la lumière.
Alors, le paradoxe pour l'Afrique, souvent, c'est que, alors, on prend un continent qui a l'énergie, enfin, qui a le soleil sur les 365 jours, mais on manque toujours d'énergie. Mais est-ce que ce n'est pas paradoxal, ça?
C'est exactement, c'est paradoxal. C'est pour cela que nous, en tant que staff de cette société-là, nous mettons à pied d'œuvre pour être sur tous les projets qui vise cette situation à pallier à ce problème-là. Parce que nous avons le soleil qui est là, permanemment, mais on n'en profite pas. On ne sait même pas comment en profiter. Donc, c'est pour ça que nous avons ces outils-là. Mais il y a aussi le coût qui est en fait, et c'est pourquoi nous avons conçu ce système-là pour permettre à ce que nous donnons des solutions, nous poussons profiter vraiment du soleil en Afrique et en faire de la lumière pour éviter la situation que nous vivons et que nous connaissons.
Alors, quels sont pratiquement les produits que vous disposez, enfin, dont vous disposez aujourd'hui pour la population?
D'accord. En deux temps, nous avons des produits des home systems que nous distribuons souvent dans les campagnes grâce au projet CISO sur lequel nous sommes des partenaires. Un projet qui a été lancé par le chef de l'État et sur lequel nous sommes rentrés dans plus de 300 000 habitats de partout sur l'étendue du territoire pour électrifier ces maisons-là qui sont isolées de l'électrification via du réseau local. Et maintenant, à part ça, nous constatons que à Lomé, le besoin est toujours là. Il y a le réseau local, mais ce n'est pas suffisamment ce que nous attendons de ce réseau local-là. Donc, nous avons des onduleurs de deux types, un type de 3.3 kVA que nous appelons le Power Hub et un autre qui s'appelle le Power Play qui a une capacité de 800 watts-heure pour la batterie et avec 600 watts de puissance qui permet d'avoir l'énergie constamment malgré que il y a coupure, il n'y a pas délestage ou bien qu'il pleuve, qu'il neige. On sait qu'en Afrique, il ne neige pas, mais qui permet à ce que dans toutes les conditions, vous pouvez avoir accès à la lumière, travailler, avoir votre wifi, avoir votre PC allumé et continuer pas à vivre sans conséquence.
En tout et pour tout, vos solutions s'adressent à qui?
En tout et pour tout, nos solutions s'adressent à tout le monde.
À tout le monde, c'est-à-dire?
À tout le monde, que ce soit un jeune entrepreneur, une boutique, la dame qui vend canclo, qui a besoin de la lumière à la maison, ou bien que ce soit la tropiste qui a besoin de la couturière, qui a besoin de la lumière chez elle pour travailler la nuit dans ces périodes de fête où elles sont débordées, ou que ce soit vous et moi qui ont besoin de ça pour travailler à la maison avec son TP, vous travaillez et vous faites un travail en ligne par exemple, vous avez besoin forcément d'avoir la lumière ou bien l'énergie pour charger le PC et le réseau Wi-Fi par exemple. Donc c'est toutes ces personnes qui ont besoin d'avoir la lumière, c'est toutes ces personnes-là à qui s'adressent nos produits.
D'accord. D'habitude, quand on parle de l'énergie solaire et avec les solutions que vous proposez, l'inquiétude se trouve souvent au niveau des coûts.
Oui.
Parce qu'il y a des gens qui disent que ce que vous proposez ou ce qui est sur le marché comme solution est souvent cher.
Oui.
Alors, à votre niveau, quel est l'avantage et quels sont les avantages financiers, surtout à long terme, pour les clients?
D'accord. Ce que je veux dire, c'est que, en fait, je vais prendre l'exemple. Le premier exemple, c'est le projet CISO. Nous donnons des kits qui sont vendus à 140 264 francs. Et la personne, ou bien le Togolais lambda qui a besoin de ce kit-là, va le payer sur 3 ans. Il donne un premier à compte. On l'installe le produit. Il utilise le produit. Et à chaque mois, il perd un taux forfaitaire. Donc, c'est-à-dire, nous sommes une société qui utilisons le Easy Buy, la vente en Easy Buy où vous êtes propriétaire de produits en payant un premier compte et vous continuez pas à utiliser en payant régulièrement. Donc c'est notre système et que sur tous nos produits, vous avez la vente soit en cash si vous avez la possibilité, parce qu'on ne ferme pas cette porte-là, mais vous avez la possibilité d'acheter le produit, de le payer soit en 1 an, soit en 18 mois, soit en 6 mois et pour les kits que nous avons pour les campagnes où la vie est assez compliquée, nous donnons jusqu'à 3 ans où vous pouvez continuer pas payer votre produit tout en l'utilisant.
D'accord. Et c'est quoi la particularité de vos produits par rapport aux autres, puisque quand on parle des produits de l'énergie solaire, il y en a tellement sur le marché. Vous, à votre niveau, c'est quoi la particularité?
Alors, la particularité de notre produit, c'est nous garantissons une certaine qualité pour nos produits. par exemple, nous, tous nos produits ont un certain nombre de garanties. Pour chaque produit, nous avons une garantie de 2 à 3 ans. Et nous utilisons la dernière technologie de batterie, qui est la batterie lithium-ion, LFP, qui sont actuellement à un coût élevé. Mais nous faisons tout possible pour que le coût soit moins et que permette à la personne de vraiment jouir de son investissement. Donc, nous garantissons une certaine qualité sur nos produits qui sont des certifications internationales dans le domaine de l'énergie solaire. Et tout récemment, nous étions à Gogal et au niveau de l'Afrique du Sud pour encore des certifications. Donc, en part de ça, nous avons un service après-vente. Nous avons un système de travail qui permet à ce que le client ne bouge pas de chez lui quand il a un besoin. Puisque nous avons un numéro vert sur lequel vous pouvez appeler gratuitement partout dans le monde, surtout sur l'étendue du territoire, vous pouvez appeler gratuitement. Et que si vous avez besoin de l'énergie, il y a nos agents qui vont se déplacer avec le truc, l'appareil ou bien le kit, veut venir l'installer et vous payez juste ce que vous devez payer. Donc, c'est ça. Nous sommes dans cette optique-là d'être proche de la population, d'être proche du besoin et de résoudre le problème sans que la personne fasse plus d'efforts.
D'accord. Je sais que vous réfléchissiez à des innovations.
Oui.
Quelles sont les innovations que les Togolais, vos clients, pourront s'attendre dans les jours à venir ou dans les années à venir?
Alors, pour cette année, pour ce mois, nous avons commencé depuis octobre. Nous avons lancé des pégophones, des téléphones que vous pouvez acheter dans le même type où vous achetez le téléphone. Vous payez une certaine partie et vous continuez pas à utiliser le téléphone jusqu'à les 6 mois de paiement que sur le contrat et vous garantissez de 1 an de garantie sur lequel si vous avez des problèmes, c'est nous-mêmes qui gérons le problème. Ça, c'est un produit que nous venons de lancer. Et maintenant, nous avons aussi d'autres produits qui vont arriver qui sont des pas beaucoup plus gros, beaucoup plus puissants pour permettre à ce que des sociétés, par exemple la radio Canal FM, puissent avoir de l'énergie malgré s'il y a coupure ou pas coupure, et sans tout autant dépenser beaucoup. Parce que nos projets, c'est de faire réduire le coût, ou bien la dépense énergétique, de chaque personne qui accepte nos produits, de 40 à 60%. Donc c'est ça notre premier projet. Donc nous mettons des systèmes en place pour permettre à ce que, voilà, tout ce que qui est consommation, besoin dans énergétique, soit comblé par nos produits.
Alors où est-ce qu'on peut trouver vos produits?
Alors, nos produits, vous pouvez les trouver. Nous avons le numéro vers lequel vous pouvez appeler pour que les agents viennent directement chez vous. Mais nous avons une boutique à Lomé. Nous sommes sur toute l'étendue du territoire. Nous avons 18 agences. Mais nous sommes à Lomé au niveau de Hedjranaoué face à la station Wando au carrefour de Notre-Dame du Liban.
D'accord. Et si vous avez un mot de la fin pour cet entretien?
Alors, pour un mot de la fin, nous sommes actuellement au niveau de la foire, au pavillon Outil, au premier étage. Donc, nous invitons la population de Lomé de partout ailleurs de venir, de passer voir nos produits, de s'informer dessus. Et nous avons le numéro, le 82-88, qui est un numéro vert sur lequel toutes les personnes peuvent appeler, demander les informations et demander même à ce que les agents passent directement chez eux sans qu'ils ne se déplacent pour que, voilà, toutes les explications soient données et qu'ils aient un contact physique beaucoup plus aimable.
Landry Duvaux, merci d'être passé dans cette émission.
Merci beaucoup à vous. Merci à vous pour le travail que vous abattez.
Merci.
Et merci à Canal FM de nous avoir donné l'opportunité de transmettre cette information.
Merci. Je pense que l'information est passée. Oui. Et je rappelle juste que vous êtes responsable commercial Lomé de la société Sun King Soleva Togo. Oui. C'est bien ça.
Oui, c'est
merci,
ça.
Merci d'être
merci
passé.
Merci beaucoup.
Merci. Alors, chers confrères, sans transition, puisque déjà depuis, dans cette semaine, c'est-à-dire du 2 au 4, Lomé est en quelque sorte la capitale d'une rencontre ou fait office alors de la capitale alors d'une rencontre sur l'énergie solaire et ça se passe bien sûr à Lomé mais pour ce qui concerne surtout la transition énergétique innovante et durable vous écrivez je veux bien parler de Ouara les vainqueurs Michel vous écrivez à la une alors de votre journal ce matin transition énergétique innovante et durable le Togo vise à garantir un accès universel à une énergie fiable et abordable. C'est bien ça.
Ah oui, vous savez que il y a une société américaine qui a signé avec le Togo la dernière fois un accord de partenariat pour permettre donc justement que les Togolais aient accès donc à une énergie fiable, abordable et surtout durable. Et, du coup, en ce qui concerne le côté énergétique, vous savez que le gouvernement fait beaucoup d'efforts, il faut le reconnaître, pour aider les populations à avoir accès donc à l'énergie électrique, d'autant plus que sans l'énergie électrique, on ne peut pas parler de l'économie. Quand on parle de l'économie, c'est que ça rime avec l'énergie électrique. Et aujourd'hui, il est question de faire en sorte que la plupart des ménages togolais aient donc accès à cette énergie-là, à un coût abordable et surtout durable. C'est-à-dire que l'accès quand même soit dans la durée. C'est ça qui peut quand même aider les Togolais. Je pense que c'est après d'autres conventions ou je ne sais pas, accords qui ont permis l'installation de comment vous l'appelez.
Qu'est-ce que vous voulez dire?
À Blita, là, il y a une
centrale photovoltaïque
voilà, qui permet vraiment de nourrir donc en énergie une large partie donc de la population. Il y a aussi le projet CISO dont parlait tantôt votre invité. Tout ça participe du fait que le gouvernement a vraiment vise donc à garantir un accès beaucoup plus large à l'énergie électrique. C'est ce qui a motivé l'article que nous avons produit suite à cet accord-là. Okay,
merci beaucoup. Et l'homme, c'est vrai que et Michel le disait tout de suite, le gouvernement fait des efforts dans ce qui concerne surtout l'accès à l'énergie, notamment l'énergie électrique, mais il y a toujours ces défis qui restent à relever.
Oui, vous savez, en matière d'énergie, on ne finit jamais de pouvoir relever tous les défis. La question énergétique est une question transversale à beaucoup de pays. C'est pour ça que l'énergie solaire est très importante aussi, parce qu'on a le soleil gratuitement pratiquement dans tous les pays. L'énergie éolienne aussi, mais l'énergie éolienne, on peut pas le développer pour le moment au Togo. Donc la dernière fois, oui, à part Blita, par exemple, et sa centrale solaire photovoltaïque, on a quand même des initiatives privées de mise en place d'énergie solaire, ce qui est quand même salutaire, parce qu'on peut pas comprendre qu'on a le soleil tout le temps, mais qu'on ne puisse pas profiter et de cette énergie-là. Ce qui aujourd'hui pose problème pour la plupart des personnes qui utilisent l'énergie solaire, c'est via des initiatives privées, c'est la question de batterie. Parce que aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui... Moi, je préfère l'énergie électrique. Parce que, sincèrement, je ne vais pas m'inscrire dans cette affaire de solaire. Parce que vous mettez votre dette dedans, après, c'est des problèmes de plaques, après, c'est des problèmes de batterie qui n'en finissent pas. Et on va vous dire que telle batterie ne supporte pas telle, etc. Donc, logiquement, tout le monde préfère l'énergie électrique. En tout cas, moi, je ne vais pas parler au nom des autres ça, c'est ou clair. De mes confrères. Mais je préfère carrément même l'énergie solaire à l'énergie électrique, à l'énergie solaire, et parce que la question de batterie, la question d'entretien, la question des plaques, après, c'est compliqué. Maintenant, si vous voulez un immeuble, si vous voulez un hôtel, moi, je crois quand même qu'il faut alterner l'énergie électrique et l'énergie solaire, ne serait-ce que pour les chauffe-eau, ne serait-ce que pour certaines utilisations, et ça vous permet de faire de l'économie, parce que quand vous prenez, par exemple, il y a certains hôtels de Lomé, même le plus grand hôtel du Togo, vous le prenez, vous connaissez bien l'hôtel, je ne vais pas citer son nom, ils n'ont pas un système adossé à l'énergie solaire, ne serait-ce que pour les chauffe-eau, ce qui est quand même incompréhensible. On peut pas mettre tout un système, tout un hôtel sur l'énergie électrique en cas de panne, et même en cas de coupure, vous pouvez pas faire tourner un groupe qui va supporter toutes les charges, toutes les chambres, l'ascenseur, la climatisation, les chauffe-eau, c'est compliqué. Donc il va falloir qu'on puisse alterner progressivement pour que les gens puissent savoir que oui, voilà, on peut s'inscrire vers cela. Même au niveau du Palais des Congrès aujourd'hui, je crois quand même qu'on a besoin de cette énergie alternative qui va supporter certains besoins, certaines charges, et de pouvoir faire aussi la complémentarité avec l'énergie électrique.
D'accord. Merci. En bref, c'est vrai que nous l'avons dit tout de suite concernant le fait que l'Afrique hein, tout entière est arrosée par le soleil ou le soleil est en permanence sur le continent et sur les 365 jours nous avons le soleil qui est là mais au même moment c'est nous qui manquons plus d'énergie. Est-ce que ce n'est pas paradoxal? Est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas une politique surtout énergétique dans ce sens?
Ta question est pertinente, mais je dois tout de suite dire que tant que nous serons toujours sous l'emprise des puissances occidentales, on ne va jamais se libérer. Je préfère choisir ce chemin-là, le plus court, mais qui est réel. Contrôle global a été installé par qui? Ce n'est pas les Américains. Un peu de 500 millions, milliards de francs, c'est fort. Kekeli, CISO et tout ça là, c'est toujours les mêmes personnes qui le font. D'accord. Je sais que l'énergie solaire, elle est coûteuse, mais elle est propre. C'est une énergie propre. J'aime l'énergie hydraulique, telle que l'homme le dit, parce qu'elle est plus puissante. Elle est aussi moyennement propre, mais elle est plus puissante que l'énergie solaire.
Et consistante.
Sauf que là aussi, la sous-traitance ne nous arrange pas en Afrique. C'est-à-dire, c'est toujours la même personne, quoi. C'est-à-dire que, on évite, on fait, moi j'encourage notre ami qui vient de parler, la Sun King qui vient de parler, parce qu'il va falloir qu'on y arrive à un moment donné aux énergies renouvelables propres. Le solaire, l'éolienne, et il y a d'autres énergies. Et j'étais perplexe, ou un peu, comment on dit ça?
Dubitatif.
C'est-à-dire, j'étais partagé, voilà. Entre l'utilisation de l'énergie nucléaire et de ne pas l'utiliser. Mais je sais que c'est une énergie qui est très puissante, plus puissante que toutes les énergies, qui fournit énormément d'énergie, c'est-à-dire que sans trace. Mais les conséquences aussi sont là quand c'est mal géré. Et donc quand on dit que c'est le Togo qui s'aventure sur le terrain, je m'inquiète. Vous savez qu'il y a des puissances étrangères, des puissances qui sont très fortes dans le domaine, la Russie, est terriblement forte. Bon, les Américains aussi, peut-être. Les Français, avec Orano et comment on l'appelle, l'autre là qui a été chassé du Niger là. Et donc, arriver à tout ça là, ça peut aussi se faire. Mais j'aurais, l'homme a dit quelque chose de très important, qu'on aille par escalier, c'est-à-dire qu'en crescendo. C'est-à-dire qu'on maintient notre énergie hydraulique, c'est-à-dire l'énergie électrique qu'on utilise actuellement, mais qu'on fasse un pas vers les énergies renouvelables, énergie éolienne. C'est vrai que ça coûte, hein. Ça coûte. Malgré qu'on a, on a le soleil. La dernière fois, j'ai acheté une lampe solaire. Ça m'a coûté juste 3 500. Mais elle est puissante. C'est-à-dire qu'il suffit que tu le laisses au soleil. Comme certains, devant certaines maisons, vous allez voir des plaques et des petites lampes. 0, je crois, ça fait 20 centimètres. Non, ça fait 20, ça fait 2 fois 2, ça fait 4. 4, la surface, c'est 4, c'est 4, non. Voilà, ça fait 4. 4 centimètres. Non, pas 4 centimètres, 4, 2 fois 2, ça fait 20 centimètres fois 20, ça fait 40 centimètres carrés. Et qui est positionné devant le portail de chacun, sans énergie. Quand on coupe, elle est là, elle est puissante. Ça, c'est là où je loue la prouesse de l'énergie solaire. J'ai une autre lampe qui est plus coûteuse. C'est 25 000 francs, on me l'a vendue. Mais ils ne m'ont pas donné la commande. Il y a une commande. Je ne l'ai pas. Donc, moi, je ne savais pas qu'il y a une commande. Le gars aussi, peut-être qu'il a oublié. Mais quand j'ai remis à un ami, il suffit de mettre sur le soleil, ça brille le soir. Pour dire que il faut aller à l'énergie renouvelable. Mais, si nous regardons ce qu'on a pour le moment, quand on n'a pas la technologie, heureusement que des gens sont en train de nous amener la technologie, mais je leur demanderai d'être un peu plus moins cher parce que le Togolais souffre. Le Togolais souffre énormément. Nous, on est conscients qu'ils sont aussi là pour nous aider. Mais certains, vos Américains et Occidentaux ne sont pas là pour nous aider. Ça, je vous le dis. Un, c'est l'argent. C'est l'argent, l'argent ou l'argent. Ils s'en foutent de vous. Ça peut même vous ramasser toute l'Afrique pour aller mettre quelque part au Nicaragua pour qu'ils viennent prendre ici. Je le dis. Parce que c'est pas pour rien, Biden est allé en Angola avec 600 000, c'est 1 milliard de dollars de financement. C'est pour concurrencer, c'est pour contrecarrer la Chine et la Russie dans le milieu. Et donc, pour conforter ce que je dis, aujourd'hui, maintenons notre énergie électrique, que la société fasse un effort pour pouvoir le barrage d'Ajarala, le barrage de Langbeto, il faut renforcer ces barrages-là pour qu'on ait l'énergie que nous utilisons et que on progresse en petitement pour que toutes les maisons soient dotées d'énergie solaire, de lampes solaires.
D'accord.
Alors, moi, pour que quand on coupe l'électricité, on ne puisse pas souffrir, qu'on oublie même la CET. On peut oublier la CET. C'est vrai que la télévision, on est obligé, la radio aussi. Mais on met pour la lampe, pour que les enfants puissent apprendre que tout le monde ait une lampe solaire chez lui à la maison.
Jean, donc je fais la avec les atouts nécessaires dont nous disposons, je veux bien parler du continent africain, on ne devait pas manquer quand même d'énergie.
Oui, le soleil à disposition pour l'Afrique, ça nous n'en disconvenons pas, mais c'est l'utilisation, comment transformer cette énergie, ce soleil, cette énergie solaire, pour qu'elle soit bénéfique pour les populations, c'est là où réside le vrai problème.
Quoi, c'est coûteux?
Effectivement, c'est coûteux. Vous voyez, depuis que nous parlons réchauffement climatique, quelle a été la demande des pays en voie de développement? C'est demander du financement pour une adaptation. Parce que nous sommes conscients que pendant plusieurs années, les pays occidentaux ont utilisé les énergies fossiles. Ce qu'aujourd'hui, on nous demande de ne plus utiliser pour préserver notre écosystème et le climat que nous avons. Mais force est de constater que les énergies renouvelables que nous sommes censés utiliser nécessitent beaucoup de moyens. Et sans appui externe, sans financement, c'est véritablement compliqué de s'en sortir. Mais faute de financement, aujourd'hui, il y a quelques initiatives privées que les gens sont en train de mettre en place, comme le frère l'entreprise Sun King. Mais il faut comprendre que ce n'est pas la portée à la bourse de tous les Togolais. Quand vous voulez faire une installation complète pour avoir votre télévision, climatiseur, congélateur et les ampoules, mais vous n'êtes pas à moins du million. Et combien de Togolais peuvent se le permettre quand difficilement les gens arrivent à trouver la pitance quotidienne? Manger ne serait-ce qu'une fois par jour, c'est compliqué. Vous allez dire à un Togolais d'aller payer une ampoule à 25 000, d'aller payer des matériaux à ce coût. C'est véritablement compliqué. Là, l'autre alternative que nous avons, Ambroise le disait tantôt, c'est l'énergie nucléaire qui, elle, n'est ni fossile, mais également pas renouvelable. Elle est entre les deux, mais c'est une énergie qui produit également de la radioactivité. Beaucoup de pays sont en train de migrer vers là, mais l'inconvénient, c'est le produit radioactif qui en sort en paix. S'il n'est pas bien entretenu, c'est dommageable pour les humains sur plusieurs milliers d'années. Donc actuellement, ce qu'il faut, c'est véritablement que nous réfléchissons vraiment en tant qu'Africains à trouver des initiatives africaines pour financer notre propre énergie. Parce que quand nous dépendons énergétiquement de l'extérieur, notre industrialisation, elle va en pâtir. Notre développement, cela va en pâtir. Donc, il faut véritablement que nous changeons de paradigme et que nous essayons de trouver des financements alternatifs pour notre énergie. Sinon, à la longue, je crois véritablement que notre développement, on va les reléguer au calendrier grec.
D'accord. On aborde un autre sujet. C'est bien ce sujet que vous évoquez. Je veux bien parler de War les vainqueurs. Vous évoquez ce sujet à la une de votre journal. C'est par rapport surtout à l'importation, la vente et usage alors de pétards. On sait que tout récemment, il y a le ministère de la Sécurité, de la Protection Civile qui a fait sortir un communiqué pour rappeler cette décision même d'ailleurs du ministère, puisque son prédécesseur avait pris cette décision et il a réitéré en quelque sorte alors cette décision pour dire que, pour parler de l'interdiction toujours qui est en vigueur, vous écrivez importation, vente et usage de pétards, l'interdiction toujours en vigueur. C'est bien ça, Michel?
Oui, c'est bien ça. Ce n'est qu'un rappel, hein. Nous avons saisi le communiqué, nous avons voulu le traiter tel quel, parce que c'est Nous estimons que c'est très important parce que c'est vrai que lors des fêtes de fin d'année, nous avons envie d'exprimer nos émotions de la manière la plus belle, de différentes manières, si je peux me permettre ainsi. Mais ça indispose énormément et par ces temps qui courent où nous avons... dans la sous-région, des situations difficiles, et ces pétards-là, leur bruit rime avec des bruits que je ne veux pas en parler ici. Donc, quand ça se passe comme ça, on ne sait pas pour nous qui n'avons pas de bonnes oreilles pour distinguer les bruits là, ça peut créer la psychose. Et donc, le ministre de la Sécurité actuelle est revenu là-dessus. Nous avons voulu reprendre, donc, nous avons voulu traiter ce communiqué-là. Mais on s'est posé beaucoup de questions à la rédaction. Est-ce que le colonel Kalisse Majouba fera mieux que son prédécesseur ou ses prédécesseurs? Parce que malgré les communiqués, vous l'avez dit, il y a de cela deux ans, je disais un jour que mais ces communiqués-là, c'est comme c'est du réchauffé. Chaque fois, on prend, on change deux mots, bon, et on publie. Mais la situation reste la même. Si le 24, le 25 décembre ou le 30e, le 1er, si on n'entend pas ces pétales-là, là, on va dire bravo au colonel Majouba, parce que à chaque fois, on a toujours pendu ce communiqué, mais je ne sais pas, c'est les frontières ou bien les importateurs qui sont qui font la sourde oreille ou quoi. On a toujours eu, donc c'est le bruit de ces pétales-là. Et Pascal, tu es d'accord avec moi que lors des fêtes, on a toujours vécu des situations comme ça. Mais on va voir cette année quelles sont les mesures idoines qui vont être accompagnées pour dissuader les éventuels candidats à cette aventure.
D'accord. Et voilà, c'est vrai que Michel l'a si bien souligné. C'est vrai, cette décision existe, mais on constate quand même qu'il y a ces produits, ces pétards qui sont toujours là. Quand vous allez même d'ailleurs dans certaines activités ou dans certaines activités foraines, pour ne pas citer même d'ailleurs cette activité foraine qui est en cours actuellement, vous verrez même d'ailleurs ces pétards qui sont vendus. La question est de savoir, mais on a pris la décision. Comment se fait-il que ces pétards rentrent encore dans le pays?
Il faut poser la question au ministère de la Sécurité, parce que c'est le ministère de la Sécurité qui sort chaque année ce communiqué. Comme Michel l'a dit, ce n'est pas nouveau. On change juste quelques mots et puis bon, on publie. Sauf que à partir du déjà là on commence à entendre le bruit des pétards, hein. Je sais pas dans vos quartiers, mais bon, moi dans mon quartier on entend le bruit des pétards. Donc on va pas se leurrer. On sait que chaque année, malgré le communiqué du ministère de la Sécurité, les pétards retentissent quand même. C'est-à-dire, il y a des gens qui, voilà, les enfants, tout le monde, à partir du 20, ça s'intensifie jusqu'au 5 janvier, par là. Et puis bon, il y a une accalmie et puis la vie reprend son cours. Sinon, c'est vrai, il faut sortir des communiqués de temps. De pour l'interdit, mais la façon dont ça rentre sur le territoire, personne ne sait. Et je ne sais pas si c'est les frontières qui sont poreuses, je ne sais pas par quel moyen les gens font entrer les pétards. L'évidence est que en décembre chaque année, malgré l'interdiction, il y a quand même des pétards qui retentissent.
Ambrose, est-ce qu'il n'y a pas un jeu d'hypocrisie un peu? Parce que on rappelle chaque année que non, c'est interdit les pétards, la vente et aussi l'importation des pétards, mais au même moment, on retrouve ces pétards sur nos marchés.
Oui, il y a un véritable paradoxe. Vous savez, hier même, une dame, moi hier soir à 21h, on a tiré des roquettes. Je sais pas si c'est là. On a tiré des roquettes. Il y a eu celle qui dit, quand ça sonne là, tu penses c'est des roquettes quoi. Et il y avait un monsieur l'année passée ou l'année dernière. Je crois qu'il doit. D'ailleurs, quand je parle de roquettes, c'est des pétards.
Roquettes,
c'est
des pétards. Voilà, et puisque quand vous parlez de roquettes, c'est.
Oui, oui, je sais de quoi je parle. Je l'ai toujours appelé ainsi. D'ailleurs, roquettes, ça dit ça, le son d'un lance-roquettes, d'un mitrailleur qui lance des roquettes là. Ça fait, quand ça sonne tellement, même à 120, tu entends. Et ça va loin, ça s'éclate. Et moi, les enquêtes que les regroupements que nous avons, les gens vont dire, c'est les enfants, souvent les généraux, les enfants des officiers supérieurs, c'est les enfants des ministres qui lancent ça. C'est eux qui ont les plus gros rois. Et il faut que le ministère, que le ministre nous entende, qu'il aille faire son investigation. Sinon, les menus flétins là, c'est les petits bandits là, les petits pétards là que les enfants, là, tout ça là. Bon, ce qui est paradoxal, c'est que comment les bandits, les pétards font pour entrer dans le pays. Ça fait plus de 20 ans qu'on sort ce communiqué. Hein. Comment ces pétards là font pour entrer? D'accord. Moi, je suis d'accord qu'on interdise parce que des fois, si tu as un problème cardiaque, tu peux partir à tout moment.
Ça crée la,
surtout avec la psychose et tout ça là. Et en plus de ça, c'est pas toujours bien dans un environnement où les gens sont nombreux, quoi. Ça panique toujours. Maintenant, la dame me dit, et c'est à cause de ça, souvent c'est à cause de ça, ça qui annonce la fête, non. Déjà en novembre, moi j'ai passé devant un portail, j'ai entendu le bruit des 25 ou 23 novembre, le bruit de pétards. C'est-à-dire que les gens, il y a certains quand même qui sont là, qui adorent ça, et qui aiment faire soyer comme ça, annoncer la fête comme ça. Donc, quand on interdit ça, ça veut dire que le 31 décembre aussi, 20 minutes, ça aussi c'est interdit. Dans tous les pays au monde, il y a les pétards. Moi, je ne suis pas en train de faire l'apologie d'utiliser les pétards, mais il y a une vérité qui est là. C'est-à-dire qu'on ne peut pas distribuer, on ne peut pas, comment dire, papier ou mettre les policiers dans tous les quartiers. Je me rappelle en 2012, moi et mon petit frère était devant le portail. C'était chaud en ce moment. Hein. Quand on entend le bruit là, immédiatement ils atterrissent. Et le petit frère là, il a tiré. Ben, quand ils sont arrivés, ils disent, mais on a rien tiré. Et alors qu'il y a l'allumette qui est derrière. Donc j'ai dû m'asseoir sur l'allumette. C'est en 2006 ou 2007, quelque chose comme ça. Pour dire que, en fait, c'est la fête, quoi. Mais on est conscient que ça fait peur des fois. Il y a certains qui exagèrent. C'est tout lourd. Ça ressemble à des armes conventionnelles. C'est là où à des dynamites ou à des grenades. C'est là même où moi je voudrais en venir. Si ils veulent interdire, ils n'ont qu'à interdire les importateurs, ceux qui l'apportent, ceux qui l'importent dans le pays. Sinon, s'il y a à tolérer, peut-être c'est des petits pétards là et les artifices de moyenne taille là. Mais s'ils disent qu'ils interdisent, et là ils n'interdisent pas pour interdire, ils disent qu'ils vont sanctionner. Il y a un élément nouveau dans le truc là. Sous peine de sanction. C'est vrai que ça, beaucoup ne le lisaient pas au départ. Et le ministre actuel aussi a sa manière de fonctionner. Vous allez voir comment les policiers sont nombreux maintenant sur les routes, dans les quartiers.
D'accord. Ok. Oui, on parle également de sanctions. Est-ce que vous pensez quand même qu'on aurait à sanctionner pour ça? C'est-à-dire juste avoir fait éclater alors un pétard?
Non, la loi est la loi. Et quand on édicte une loi, on est censé la respecter. Quand vous ne respectez pas la loi, vous tombez sous son coup. Les auteurs ont abondamment épilogué sur le sujet. Si on veut pas que les pétards arrivent au Togo, il faut essayer de sévir au niveau des frontières et au niveau des exportateurs. C'est tout, des importateurs plutôt. Ce communiqué me rappelle celui des plastiques noirs, des sachets de plastique dont on a interdit l'utilisation, mais qui foisonnent un peu partout dans nos rues. C'est dire que, moi je dis que c'est un communiqué de plus, à moins que véritablement peut-être on assiste à des sanctions, pour quand même décourager cette initiative-là. Et vous savez, la dernière fois, il y a un monsieur qui était à bord de son véhicule, quand les enfants ont lancé le pétard à côté du véhicule, vous n'imaginez pas la panique que cela a créé. C'est là où moi j'ai quand même pu voir quand même le pourquoi ces trucs-là ne sont pas véritablement bien parfois. Si c'est dans un espace contrôlé, ça se comprend. Mais
est-ce qu'on peut arriver à contrôler?
Je ne saurais le dire actuellement. Bon, vous savez que le gouvernement, même l'État, organise un truc de caliente au niveau de Colombe de la Paix, souvent, chaque fin d'année. Si c'est dans ces cadres-là, peut-être que on lance les pétards, il y a des endroits spécifiques.
Et c'est annoncé d'avance.
C'est annoncé d'avance.
Et justement, c'est annoncé
d'avance. Voilà, quand c'est réglementé comme ça, on sait qu'à partir de 20, peu avant minuit, on aura des pétards. Mais avec le contexte sécuritaire que nous avons actuellement, tout est possible. Donc, il faut savoir raison garder et prendre notre mal en patience.
D'accord.
Le 1er janvier passera, ça ne va pas changer quelque chose à notre année. Donc, comment je vais dire, ayons la maîtrise de soi.
D'accord.
Et traversons l'année dans la joie, si on a la santé, c'est l'essentiel pour moi.
Les Guadiens qui titrent sur le sujet, fête de fin d'année, le ministère de la Sécurité interdit des pétards sous peine de sanctions. Alors, je reste toujours avec les Guadiens. Ambroise, vous évoquez à la une alors de votre journal ce matin un phénomène au niveau de la foire, la 19e foire internationale de Lomé. Vous écrivez 19e foire internationale de Lomé, des stands sous-traités et loués aux exposants à prix d'or, 300 à 800 000 francs CFA, la corruption et la débauche également signalées.
Oui, vous savez, ça fait depuis les années 2000-2001 que la foire a repris. Cet espace était un espace de chaîne d'or, c'est la broussaille. que certains ont réhabilité au temps du ministre de l'économie et des finances, le ministre Dadji, et Kwaku Bankar Johnson, l'ancien DG, avait réhabilité, ça fait plus de pratiquement 20 ans, qui a ce centre-là. Et le quartier aussi a changé de visage avec la foire, parce que tout autour de ce centre, il n'y avait pas de grandes maisons. Il n'y a pas beaucoup de maisons. Et donc, ces deux dernières années, après le départ de Johnson, il y avait un intérimaire qui aussi était venu, il a fait une année ou deux ans, je crois, avant qu'on le nomme un nouveau directeur général. Nous, on n'a rien contre lui. Encore moi, je ne l'ai jamais vu. Mais il y a un fourre-tout qui se passe là-bas. Il y a un désordre immense qui se passe là-bas qu'on ne comprend pas. D'abord, au niveau des stands. Les stands sont souvent loués. C'est le CTF même qui louait les stands. Il y a de cela 4, 5, 10 ans qui louait les stands aux prestataires. C'est-à-dire qu'aux exposants. 100 000, tout dépend de ce que vous vendez, vous apportez. Les gens sont là pour la vente, les gens sont là pour les services. 200 000, 250 000, peut-être 150 000. Maintenant, les stands ne sont plus à ce prix. C'est à 300 000, entre 300 000, 800 000, 600, 800 000. Ne serait-ce que pour les restaurateurs. Vous avez un bar, vous vendez de Hakman, vous vendez Colico ou les frites, vous vendez saucisses et les boissons, vous êtes à 300 000, 400 000. Vous vendez Com ou Akoumé, tout ça là, vous êtes à 600 000. Mais pour deux semaines que la foire va durer et qu'on achète ou bien qu'on loue un stand à 600 000, est-ce qu'on est sûr de faire des bénéfices? C'est pas évident. Maintenant, on a enquêté, on a compris que ce n'est plus le CETA, la direction générale, qui cède les stands directement aux prestataires. C'est des individus influents, soit-ils, qui achètent l'espace, c'est-à-dire qui baillent l'espace même du centre et qui les revendent cher, qui font le quadruple du prix qui devait être vendu. Mais le Togolais a combien d'argent? Et vous allez vous retrouver, bizarrement, cette année, entre 60 et 80 bars sont souvent installés. On a souvent les badges pour prester dans le centre. Cette année, ils sont à 250, au point qu'il n'y a plus de reposoir. Vous n'allez plus trouver d'espace pour vous reposer. Vous allez voir comment les jeunes ont envahi le centre. Le week-end, parce que vous avez ce qui se passe. On frôle la débauche. Je vous dis qu'il y a des... Vous allez voir des jeunes garçons, des filles... qui s'agglutine autour de... C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on ne peut pas dire ici. Et maintenant, ce qui intéresse ici, c'est que pour la bourse du Togolais, on ne peut pas débourser 400 000, 300 000 pour un petit stand de rayon de 15 mètres carrés. Ou peut-être même de 18 mètres carrés ou 20 mètres carrés pour 300 000, voire 600 000. Et il y a une société ou une dame, quand vous allez là-bas, le badge m'importe le nom de la dame, qui est toute puissante là-bas, qui a acheté de l'espace et qui le vend à prix d'or et qui menace, même si vous voulez, vous ne le prenez pas. Il y a beaucoup de gens qui sont sur la liste d'attente. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui veulent aussi en acheter, en louer, mais elle fait de la surenchère. Nous sommes allés aux nouvelles auprès de la direction générale, auprès du directeur général, qui nous a envoyé un message. Je ne dirais pas qu'il semble confirmer, mais qu'il confirme réellement ce que nous avons dit. Que c'était une pratique qui est là, et on ne peut pas prendre 2 ans pour l'éradiquer. Vous voyez ça?
D'accord.
Donc, ici, madame la ministre doit interagir, doit agir, parce qu'on a comme l'impression qu'il y a beaucoup d'intérêt. Des gens, et je le précise, que c'est des choses qui se traitaient même en dehors du centre, avant même que la femme le commande. Ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'il y a un DG qui dirige un centre, mais il y a des gens qui le dirige autre que le DG.
Est-ce que ça veut dire que le DG n'a pas la même mise alors sur ce qui se passe?
Je ne saurais le dire. Mais j'ai compris que, vous savez, quand on vous nomme DG, vous devez avoir de la poigne pour gérer, pour diriger. Il y a jamais eu ce problème avec le DG précédent. C'est pourquoi je dis, je ne le connais pas. Et je n'ai rien contre lui. Je vais même l'aider, peut-être, à ce qu'il puisse avoir la maîtrise de son centre, qu'il puisse céder lui-même. Que ces services puissent céder eux-mêmes les stands, pas des individus qui viennent à travers des sociétés écrans et sous-traiter les centres. C'est pour le Togo. C'est un centre public. Et donc, certaines personnes, les mêmes personnes qui sont de la minorité, ne viendront pas quand même siphonner les Togolais.
D'accord.
Ça, on ne peut pas être d'accord.
Ok. Michel, la situation que décrit Ambroise, est-ce que ce n'est pas du commerce aussi et que l'intérêt est en jeu?
Bon, je sais pas, tu veux que je te prenne comment, hein. Vu que c'est pas du commerce, bon, est-ce que cette façon de faire, c'est normal? Bon, ce n'est pas la force, il y a des domaines où il y a des gens bien tapis dans l'ombre qui tirent les ficelles, qui fonctionnent pas à la fois là-bas seul. Il y a dans des... C'est-à-dire, nous sommes arrivés à une situation dans ce pays où c'est des situations comme ça. Qui, moi, je suis déjà allé par deux fois la fois, juste pour voir comment ça se passe, puisque l'année dernière, contrairement à ce qu'on a vu à la fin, on a dressé un bilan tellement intéressant. On a, j'attends le bilan pour que nous aussi on puisse dire ce que, pour le moment, je me tais, mais je sais que.
Vous avez aussi votre bilan, c'est ça?
Oui, non, nous irons là-bas même avant la fin. Pour voir, parce que bon, il ne faut pas seulement que les badauds aillent les soirées ou vraiment se déambuler devant les artistes, manger quelques brochettes et dire que bon, la foire c'est bien, on nous donne les chiffres ronflants, combien sont allés, non. Nous allons voir, parce que j'ai dû interroger certains exposants, ça fait 3-4 jours, comment vous voyez, et j'ai les réponses. Quand vous voyez comment ça se passe, j'ai les réponses et j'attends.
D'accord.
Oui, oui. Ce que dit Ambroise là, par rapport au prix des stands, vous savez, ça a des implications. J'ai essayé aussi de vérifier au niveau de la consommation, à combien coûte une bière, une sucrerie. Je suis allé d'un stand à un autre, à deux, trois, pour voir, pour vérifier. Mais ce qui fait que, vous savez, les gens vont juste pour payer 500 et... déambuler, venir ressortir. Ils ne prennent même pas les comment l'appelle-t-on là?
Les articles.
Les articles, c'est ça. Parce qu'ils ne peuvent pas. Ça dit que c'est au-delà de l'entendement. Donc, c'est pas la foire que nous on connaissait de pas les années. Bon, on va nous dire que bon, cette année, ce n'est pas comme les années précédentes. Il y a peut-être, on va dire des choses. Bon, on verra bien. Moi, je ne veux pas beaucoup, mais je sais que ce que dit Ambroise, ça se passe. Ce n'est pas cette année seulement. Nous allons revenir. Quand l'heure de bilan va arriver, nous allons dire ce que nous pensons.
D'accord, on attend. On attend votre bilan, votre bilan à cette pour cette fois. Alors,
souhaiter beaucoup de courage à l'équipe, à la direction générale, parce que ce n'est pas facile depuis quelques jours tout ce qu'ils sont en train de faire. Moi, je n'aimerais pas être à la place des responsables, parce que quand vous regardez un peu. La sollicitation, la demande qu'il y a malgré toute la digitalisation des tickets et tout ce qui a été préparé en amont, et on assiste toujours à des imprévus, c'est normal, toujours dans la bonne ligne des choses, et je crois quand même qu'il faut quand même d'abord les encourager dans un premier temps et féliciter tous les efforts, enfin les féliciter pour les réformes qui ont été faites dans le cadre des parkings, et voire des motos, des voitures qui circulent, qui ont l'habitude de circuler, des vendeurs ambulants. Maintenant, sur le prix des stands, Ambroise a relevé quand même un certain nombre de points, mais par le passé aussi, moi, ce que je sais, c'est qu'il y a toujours des prestataires. Et quand on comprend les anciens directeurs, il y a toujours eu des prestataires à la fois pour les stands. Et même cette année, la différence, c'est que il y a des stands même qui appartiennent à la direction générale de la foire. Par le passé, c'était loué. C'est la grande différence. D'accord? Maintenant, après, je ne sais pas si ça agit sur le prix des stands. Ça, je ne sais pas. Je n'en sais absolument rien. Mais je me dis peut-être que ça a dû jouer. Maintenant, il faut voir aussi les implications. Parce que quand vous regardez un peu les stands cette année, on vous dit défaut d'afficher contre les parois des stands. On a bien dit qu'il y a eu maintenant un défaut d'afficher sur les parois, et que maintenant, si vous affichez sur les parois, vous êtes frappé d'amende, que maintenant vous faites des affiches contre des trucs que vous déposez. Donc en réalité, par rapport aussi à la vente, c'est vrai que cette année, c'est un peu plus les jeunes. On a vu un peu les images, mais on va pas aussi on ne va pas prendre des images qui circulent aussi pour dire oui. C'est, mais on constate qu'il y a une forte affluence de jeunes, les concerts qui sont là, les animations. Mais en général, dans le pays actuellement, si vous êtes commerçant, vous, vous ressentez les effets de la crise. C'est pas ça, ça ne date pas de cette année. Ça date de 2-3 ans. Les activités, c'est au ralenti. Ceux qui sont les grands commerçants, les détaillants, vous diront que ben, depuis 3 ans, depuis que la Covid a pris fin ou depuis le début de la Covid jusqu'à présent, les activités, ça va, ça revient, ça va, ça revient. C'est pas aussi constant. Maintenant, est-ce que ça a des répercussions au niveau de la fête foraine? Je crois que oui, parce qu'économiquement, quoi qu'on dise dans le pays aujourd'hui, c'est compliqué, avec beaucoup de paramètres, beaucoup de critères. Vous connaissez aujourd'hui les prix des produits de première nécessité. Donc aujourd'hui, quand le Togolais pense que le bol de maïs est à 900 et qu'il va acheter le bol de haricots à 3000, écoutez, c'est pas aller à la fois pour s'acheter un téléphone de 50 000, 60 000 qui est son problème, vous comprenez. Donc les besoins, les gens ont des besoins, des priorités, et aujourd'hui il va falloir justement que qu'on puisse s'asseoir pour pouvoir repenser aussi un certain nombre de paramètres pour que au niveau de la foire, les exposants aussi puissent faire de meilleurs chiffres d'affaires.
D'accord.
Parce que c'est important, une chose est de prendre les stands, une chose est de pouvoir capitaliser sur l'argent qu'on investit.
Tout à fait.
Donc non, attendez, oui, quelques secondes.
Puisque notre temps évolue déjà, oui, je pense que vous avez l'argent.
Ok. Oui, vous...
Alors Jean, c'est vrai que je voudrais même d'ailleurs rebondir à là où l'homme a chuté tout de suite. C'est vrai qu'il y a des exposants qui sont là, mais l'essentiel c'est qu'ils arrivent à capitaliser ce qu'ils ont investi.
Oui, c'est vrai. Quand on vient une fois, on ne vient pas pour perdre. Mais aussi, il y a quelque chose qu'une fois l'ancien DG disait, on ne vient pas une fois pour faire des bénéfices, pour vendre. La foi, c'est plus d'abord pour se faire découvrir. C'est ce qu'il avait dit, moi je me rappelle bien. Parce qu'à l'époque, les commerçants, les exposants se plaignaient qu'on ne vend pas, on n'a pas vendu, comment on va faire pour payer. Il dit, mais quand on vient une fois, c'est d'abord pour tisser des partenariats, se faire découvrir des autres et avoir des B2B, nouer des partenariats pour peut-être que quand vous repartez chez vous, vous avez des répondants au Togo. Vous savez que quand vous avez une marchandise, vous pouvez envoyer, telle personne peut prendre, et voilà. Et c'est le business qui marche comme ça. Bon, l'affluence, c'est vrai, il y en a, et l'on l'a tenté de relever, c'est beaucoup plus les jeunes. Et il faut relever que c'est plus les soirs avec les concerts. Et quand beaucoup viennent à la fois, regardez, la crise que nous avons actuellement, la crise économique, si elle frappe les Togolais de plein fouet, ce n'est pas la foire qui va échapper.
Oui.
Et le Togolais aujourd'hui n'a pas assez de moyens, difficilement. Même les gens, quand on vous dit 300 qu'il faut payer là-bas, vous savez comment les gens font les salamalecs pour avoir ça? Rentrer, c'est juste parfois avoir quelques brochettes, ils prennent la bière, ils s'assoient avec les filles et tout ça, ils font le show, c'est tout. Les gens ne paient pas grand-chose. Les gens, c'est juste se distraire un peu, parce que il faut relever qu'on n'a pas vraiment d'espace de distraction, de centre pour les jeunes.
Et donc, ça devient un centre de distraction.
C'est plus de la distraction. Et les 3 jours qui viennent, ça sera encore véritablement une très forte affluence. Et même pour ces 3 jours, il y a plusieurs dispositions qui ont été prises par le nouveau DG.
D'accord.
Pour quand même qu'il y ait
une... Je crois, rapidement. Oui, je crois qu'il y a beaucoup de choses, des ratés qu'il faut corriger, hein, parce qu'on ne peut pas dire aux gens qu'il y aura des concerts 19h à 23h et que les gens attendent qu'on vienne acheter quelque chose pour avoir déboursé 600 000 francs pour 2 semaines.
D'accord, on attend l'heure du bilan, tel que Michel l'a dit. On évoque maintenant la question politique, tel que je l'évoquais alors au début de cette émission avec mes mots introductifs. C'est vrai, nous avons appris l'information hier et sur la télévision nationale que le Togo va organiser ses premières élections sénatoriales, et c'est la date est déjà fixée, c'est le 2 février 2025. Et la campagne électorale couvre la période du 17 au 31 janvier 2025. La caution est fixée à 300 000 francs pour les hommes ou les candidats, et les candidates, c'est 150 000 francs. Alors, avec déjà cette date qui est fixée pour les sénatoriales, on pourra dire que pas à pas, nous tendons vers la mise en place même d'ailleurs des institutions de la 5e République.
Est-ce que c'est au-delà même, c'est l'achèvement même du processus de du processus de décentralisation, puisque le développement à la base disons la gestion des affaires publiques à la base avec les les élus locaux.
Vous parlez de la gouvernance locale.
La gouvernance locale, voilà. C'est pratiquement l'achèvement de la distance avec la mise en place du Sénat et autres. C'est vrai, la Constitution, en tout cas l'ancienne, qu'on l'avait prévu, mais ça n'a jamais eu lieu. Mais cette fois-ci, nous passons donc à l'accès. C'est un couronnement, hein. C'est un couronnement. Mais je pense que ces élections, pardon, ne concernent pas toute la population. C'est, nous avons déjà élu les gros électeurs, hein.
Et les conseillers régionaux.
Oui, non, d'abord les municipaux. En 2019, on a élu déjà les conseillers municipaux. Et cette année, on a élu les conseillers régionaux. C'est eux les grands électeurs.
Le corps électoral.
Oui, ouais, donc nous, on n'est pas concernés, je ne sais pas. Bon, c'est à titre informatif, sinon. Et surtout que. Non,
le sénateur serait élu les deux tiers, ce serait dans la masse, ce serait au sein de la population.
Certains vont profiter pour améliorer leurs conditions de vie. Pendant ce temps, nous, on a à la base notre misère continue. C'est très important. Aujourd'hui, c'est purement politique. La grande population que nous sommes, nous, on a rien. Nous continuons à ruminer nos problèmes. Donc, c'est de voir au-delà ou à côté. Où on est en train de vouloir repositionner les gens, améliorer les conditions des gens. Qu'est-ce que la plupart des Togolais vont gagner à partir de cela? C'est de ça qu'est la question. Okay. Comment améliorer les conditions, en tout cas, des citoyens
dont nous sommes?
C'est une information sur
moi. C'est pas qui vote.
On n'est pas
qui est électeur.
Non, il y a un communiqué du gouvernement.
Non, justement, il y a un communiqué du gouvernement. Qui a été qualifié comme ça?
Oui.
Sur le Sénat. Sur le Sénat, je crois que le Sénat est budgétivore. On n'en a pas besoin au Togo. Ça, c'est un. De deux, c'est Michon qui sert à remercier des gens. C'est-à-dire qu'il faut qu'on soit clair là-dessus.
Comment ça?
Remercier, c'est-à-dire que les vendeurs de pain, les danseurs d'animation, tout ça, autant d'ailleurs des malades. Ceux-là qui étaient dans Areto là. C'est ce qu'on a fait en RDC. Et les Tchalamona, tout ça là, sont devenus des sénatrices. C'est juste un exemple. Ici, le chef d'État va nommer un tiers. C'est qui? C'est ceux-là qui l'ont servi. C'est ceux-là qui sont des amis. C'est ceux-là qui l'ont trouvé que ils ont fait quelque chose en son temps. Ça, c'est le tiers. Maintenant, dans tous ces conseils régionaux, tout ça là, qui est majoritaire? C'est toujours le parti au pouvoir. Même si on a des conseils municipaux, quand il s'était agi d'aller élu le maire, on sait comment ça s'est passé. Les communes qui sont passées et ils ont encore positionné les gens du parti au pouvoir. Alors que rien ne marche dans le pays. Et donc, l'Assemblée nationale est là. C'est avec les mêmes personnes. Majoritairement unis et tout cela, c'est uni. Le Sénat aussi. Le président est uni. Le premier ministre est uni. Vous voyez ça? Nous ne sommes pas dans un pays normal. Nous ne sommes pas dans un pays démocratique. Qu'on enlève la démocratie au fond de tous les Togolais et de toutes les institutions. Il faudrait qu'on soit clair là-dessus. Aujourd'hui, on n'a pas besoin de Sénat. Les Sénégalais l'ont essayé, ils l'ont bousillé. Ils l'ont chassé. C'est-à-dire le Sénat n'existe plus au Sénégal.
D'accord.
Parce que c'est eux qui sont plus démocratiques, mais ils ont trouvé le Sénat antidémocratique. En RDC, les gouverneurs sont élus. Ici, ils sont nommés.
D'accord. Alors, est-ce que vous avez aussi la même impression que aujourd'hui, le Togo n'a pas besoin du Sénat?
Non, moi, je ne suis pas politologue. je suis analyste. Je suis journaliste. Est-ce que moi, comme Michel l'a dit, je crois que c'est les conseillers régionaux et les conseillers municipaux qui vont élire les sénateurs. Mais c'est quand même bien que à titre informatif que officiellement les choses se fassent. Donc on a retenu la date du 2 février 2025 pour l'élection. Bon, on va croiser les doigts pour voir comment ça va se passer. De toutes les façons, aujourd'hui nous sommes en phase vers la 5e République et on a besoin de ces institutions pour mettre en place d'autres institutions, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on ne va plus parler de l'Assemblée nationale, mais on va parler du Parlement, parce qu'il y aura maintenant un Parlement bicaméral, avec les députés d'une part et les sénateurs de l'autre côté, qui vont mettre en place le président du Conseil des ministres et ensuite le président de la République. Donc, je crois quand même que pour pouvoir arriver à cela, il faut mettre en place le Sénat qui est l'autre chambre du Parlement, du Parlement, pour que les institutions soient quand même mises en place. Donc, on dira plutôt, bonne chance aux candidats qui vont se présenter. Oui, bonne chance aux candidats qui vont se présenter d'ici là, et puis bonne campagne à tout et à tous.
D'accord. Oui, mais Jean, c'est vrai que hier, quand on a annoncé la date, les commentaires qui ont suivi cela sur les réseaux sociaux, c'est par rapport surtout au fait que le Sénat est budgétivore, d'aucuns disent que non, le Togo n'a pas besoin alors du Sénat actuellement. Et pourtant, par rapport surtout à la 5e République, il faudrait quand même qu'on mette en place un Sénat pour, en quelque sorte, mettre en place aussi les autres institutions.
Oui, bien évidemment. Vous savez que le Togo a basculé dans la 5e République depuis mai 2024. Et nous sommes actuellement à la phase de la mise en place des institutions, ce qui veut dire que si on veut respecter les tests, il faut nommément mettre en place le Sénat. Ça devient une obligation et on ne peut plus s'en passer comme dans l'ancienne constitution où on ne se contentait des députés. Aujourd'hui, c'est une obligation. Mais je relève, comme les autres l'ont dit tantôt, c'est plutôt une élection entre les politiques qui ne va pas véritablement impacter sur le quotidien des Togolais. Et s'il était possible qu'on fasse une marche arrière, il faut vraiment considérer le caractère budgétivore de cette institution. Les Sénégalais, tantôt Ambroise le disait, l'ont abandonné. Aujourd'hui, le fonds qui était destiné au Sénat, au niveau du Sénégal, ce fonds sert à gérer les inondations. C'est dire quand même que à un moment donné, certains ont compris que cette institution n'apporte pas véritablement quelque chose de plus à la politique. Et je crois peut-être que le Togo veut faire l'expérience et peut-être qu'après un mandat, on comprendra et peut-être on reviendra à l'arrière. On met de l'argent dans beaucoup de choses, mais à côté, récemment, vous voyez au Sénégal, on a augmenté l'aide de l'État. On est passé maintenant à 4 milliards de francs CFA. Pourtant, au Togo, nous sommes à 150 millions de francs CFA. C'est-à-dire, 1/26e, le Togo, l'aide de l'État à la presse au Togo fait 1/26e de l'aide de l'État au Sénégal. Bon, à chacun d'en juger et de conclure ce qu'il faut.
Mais également, il y a les médias qui sont passés de 500, pratiquement 500 à 110. Je veux bien parler de l'effectif des médias.
Effectivement, il y a que 112, mais il y a 112 médias qui sont éligibles pour les 4 milliards de francs CFA.
Non, ils vont administrativement.
Oui, mais ce sujet, par exemple, moi, je crois que ça doit dépendre aussi de la qualité de nos organisations, de nos médias. Oui. Vous comprenez, vous savez, si on veut aller vers justement une plus grande professionnalisation, il faut que nous-mêmes nous puissions assainir notre propre
tout
milieu.
À fait.
C'est très important.
C'est très important.
Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas considérer un site qui écrit chaque 3 mois. Qui fait un blogueur, on va pas le considérer comme un média en bonne et due forme.
On va revenir sur le sujet.
Oui, mais si parce qu'il ne faut pas juste voir les montants, mais il faut voir aussi la qualité des médias qui sont là et puis l'effectif qu'ils emploient.
D'accord, merci beaucoup, cher confrère. Et là, on va revenir sur le sujet. On parlerait justement alors de ce sujet, puisque ça nous concerne, nous, en tant que journalistes. Mais nous allons maintenant donner la parole à nos auditeurs, puisqu'ils s'impatientent à rentrer en ligne et à participer à ce débat avec nous. Nous allons leur donner la parole, mais bien avant, nous faisons un clin d'œil à nos annonceurs.
13.5. Canal FM.
Nous sommes de retour dans cette émission Club de la Presse et maintenant nous nous ouvrons à vous. Vous pouvez nous appeler au 90 86 35 35, premier auditeur en ligne. Allô?
Allô?
Oui, bonjour. Papa. Oui, bonjour Papa Sordiné.
Oui. Comment? À mon avis, plusieurs personnes disent qu'on n'en a pas besoin tellement de ce sénateur-là. Qu'est-ce qu'il fallait faire changer au Togo? On a fait réellement dans le pays. Est-ce que c'est des sénateurs qui vont faire que la famine va diminuer? Donc, à notre avis, bon, ces sénateurs, l'argent qu'on va utiliser pour les payer, il faut que cet argent on l'utilise pour faire autre chose. Merci, bonne journée.
Merci pour votre intervention, Papa Sordiné. 90 86 35 35 91 36 63 115. Les deux numéros sur lesquels vous pouvez réagir, vous pouvez nous écrire aussi sur notre numéro WhatsApp 90 45 78 57. Allô.
Allô. Bonjour.
Bonjour, madame Essi.
Oui, vous êtes là-bas.
On est là. J'espère que vous êtes là aussi.
Oui, je vous dis, vous pouviez avoir un budget de 10 milliards au moins pour les journalistes qui abattaient un travail noble, quoi, par rapport au Sénégal, à qui on a augmenté à 4 milliards pour les journalistes là-bas. Alors que le Sénégal est un pays pauvre par rapport au Togo. On vous le dit, quoi. Et puis, après, vous dites, vous n'avez rien contre les gouvernants, vous venez débattre quand même. C'est que vous avez mal quelque part qu'on débat tous sur la radio. Et puis le Sénat, des élections encore tronquées, le Sénat pour les Africains, c'est pas bon. Les Africains n'ont qu'à arrêter ça. On n'en a pas besoin du Sénat, de machin, en Afrique. Hein? Et ils respectent rien, ils respectent aucun test de nos lois, quoi. On n'en a pas besoin. On a besoin de développer l'Afrique. Hein, le continent pour que la population soit bien. Hein, vraiment. Et puis, moi, je vous dis de demander au président. Il nous a promis la réforme démocratique en 2005. Non, en 2008, après 2005. Et puis après, c'est la PG qui donne droit jusqu'en 2015 pour qu'il nous fasse les réformes. Où s'en est tout ça là? Où s'en est ça? Hein? Si on fait des trucs comme ça, le pays est libéré, les énergies se libèrent, le pays se développe. Il faut pas qu'il fasse ça. Il faut qu'il arrête. Le caliente, on peut le faire au stade de Kégué. Parce que la seule route internationale qu'on a, c'est, ça passe par le lycée. On bloque ça toute la journée. Les voitures chauffent et crament. C'est pas bon. C'est un abus de pouvoir ou de machin. D'accord. On n'a qu'à le faire au stade de Kégué.
D'accord. Merci, madame Essi, pour votre intervention. Allô?
Bonjour, Pascal.
Bonjour, Patrick. Comment vous allez?
Comment vous allez?
Ça va, chez vous?
Ça va bien aussi.
Allez-y.
Ambroise et les autres journalistes, je leur dis aussi un petit bonjour. Hein.
Oui, ben voilà, ils vous écoutent.
D'accord. Et Pascal, excusez-moi, je voulais attirer un peu l'attention des busman ou bien des chauffeurs qui amènent nos enfants vers la foi, sur le site de la foi de 2000. Là. Je viens de croiser un fait tout à l'heure, là, c'est pas bon, je voulais quand même une chose, d'amener les enfants. L'autre aussi est de gérer quand même ou bien de veiller à leur sécurité. Quand les enfants sont à bord, les chauffeurs, ayez quelqu'un pour contrôler ces enfants. Parce que ces enfants-là sortent leur mère de par leur hublot, enfin, les fenêtres de bus. Et imaginez un croisement avec un camion de sable, un bête. Les enfants, ils chantent dedans, ils sortent des mains, ils font des gestes. C'est en dehors du bus. C'est aussi le bus, là. Et voilà, essayez quand même de contrôler ça pour que ça ne puisse pas tourner à ce que je ne voudrais pas dire.
D'accord, le message est passé. Merci beaucoup, Patrick. 90, 86, 35, 35, 91, 36, 63, 75. Nous avons encore quelques minutes pour recevoir notre dernier auditeur. Allô?
Oui, bonjour.
Bonjour, comment vous allez?
Ça va.
C'est Monsieur Mauto.
Oui.
Voilà, allez-y.
J'ai entendu quelqu'un dire là-bas que c'est une obligation pour le gouvernement de mettre le Sénat en place pour mettre en place la Constitution. C'est faux. Le Sénat doit exister dans l'ancienne Constitution 1992. Mais ils n'ont jamais fait ça. Vous allez au THU, service d'urgence, là, les gens meurent là-bas. Quelqu'un est fait accident, on l'a amené, on demande qui l'a amené. Et après là, il faut aller chercher des bons papiers, il n'y a pas les premiers soins. On peut déployer ce fonds-là pour aller et aménager le THU Campus. Merci, bonne édition.
Merci beaucoup, Monsieur Mauto, pour votre intervention. Vous êtes le dernier auditeur pour le compte alors de cette émission de ce jeudi. Il y a également des réactions sur notre numéro WhatsApp 90 45 78 57. Bonjour, Canal FM. Moi, c'est Kofi de Clément Zangera. Ma question est que à quoi sert les sénateurs pour ce petit rectangle qu'est le Togo? Et c'est Kofi depuis Zangera. Il y a également Monsieur André qui nous écoute depuis Dakar, qui écrit
Et effectivement, l'aide à la presse est à revoir sur tous ces plans. Imaginons demain, Canal FM devient puissant comme le groupe TF1 ou autre. C'est en faveur de, en faveur et en défaveur de qui? Suivez mon regard, comme dit Ambroise, c'est raison pour laquelle on réduit la presse au strict minimum. C'est déplorable. Vraiment, merci à vous pour tous vos efforts, malgré les difficultés dont vous faites face. On garde espoir. C'est André depuis Dakar. Merci beaucoup, André. Et merci à vous qui avez réagi également à travers nos numéros. Nous revenons au plateau pour faire un dernier tour de table et clôturer l'émission. Michel, vous allez écouter les uns les autres réagir aussi hein, sur les sujets débattus ici au Club de la Presse. Votre réaction?
Non, je pense que c'est un débat démocratique. Les auditeurs, comme d'habitude, ils donnent leur point de vue. Et c'est intéressant aussi de les écouter depuis là où ils sont. Mais je voulais, pour terminer, faire un clin d'œil à la directrice de la Soutenir à Jour, dirigée par Madame Lemuelis, qui vraiment fait un travail très remarquable. Je pense que l'homme Magloire qui n'est pas là aujourd'hui et les autres, nous avons, surtout avec le doyen Sass, on a l'habitude de goûter à sa boisson locale, Tchoukoudou en bouteille, et comme les fêtes de fin d'année s'approchent, nous l'encourageons vraiment et nous disons au public de penser à elle parce que comme nous sommes dans le consommant local, il faut quand même que les gens puissent s'en procurer. Et elle a des friandises aussi de toutes catégories. D'accord. Et c'est intéressant de pouvoir goûter à ces produits-là.
D'accord. Et l'homme?
Oui, un clin d'œil aussi à la société Nirajou. C'est important ce que Michel vient de dire. Et je crois quand même qu'elle fait du bon travail et qu'elle mérite d'être encouragée. Et aussi profiter de l'occasion pour attirer l'attention des maires sur le problème d'éclairage public. On a des voies qui sont là, qui sont mal éclairées la nuit. Maintenant, on vient ajouter les luminaires, les jeux de lumière que vous connaissez pour qu'on mette sur la décoration lors des fêtes de fin d'année. Comment vous voulez que dans un quartier sur une belle route, les gens n'ont pas de... La route est mal éclairée, les gens n'ont pas de lampadaire, n'ont pas de lumière. C'est leur phare qui leur sert de guide. Et maintenant, vous ajoutez les lumières multicolores là sur les voies, alors que sur des routes mal éclairées. C'est ça, les lampadaires ou comment? Donc, l'argent que les mairies vont prendre pour décorer les routes mal éclairées là, pardon, qu'on puisse voir avec le comité d'éclairage public, qu'on règle d'abord le problème d'éclairage. On veut circuler sur des routes bien éclairé d'abord. Maintenant, après, là, embellissez-nous la route avec vos lumières.
D'accord.
Pas l'inverse.
D'accord. Pardon. Merci. Merci, l'homme. Je pense que le message est passé. Et les maires ont écouté vraiment ce message. Ambroise?
Oui, moi, je voudrais revenir sur un communiqué sorti par la Direction Générale de la Foi. Un communiqué à ton menaçant à l'endroit des médias. Et moi, je voudrais lui envoyer un message en lui disant qu'on n'a pas besoin de menacer les médias. Si vous gérez une institution publique et qu'il y a des failles dans la gestion, c'est les hommes qui doivent le dire, c'est les médias qui vont vous aider à les corriger. Même si les prestataires font une délégation pour venir vous voir, vous faire des propositions, que vous rejetez tout par le revers de la main, les médias sont là pour vous aider à corriger ce qui est défaillant. Ce n'est pas seulement les médias qui le disent, tout le monde le dit. Il y a des défaillances, il y a des désordres. Je vous dis qu'il a menacé les médias. Le CETEF rappelle que la liberté d'expression est un droit fondamental, mais elle doit être, on doit s'exercer dans le respect de la loi et la dignité des personnes. Toute propagation volontaire de fausses informations, calomnies ou propos diffamatoires constitue une infraction punie par la loi, les lois en vigueur. Il continue, nous assurons à tous que les actions légales seront entreprises contre les auteurs de ces actes pour préserver l'intégrité de notre institution. Les personnes identifiées comme responsables répondront de leurs actes devant la justice. Ça, c'est une menace.
Oui, et mais c'est pas les médias.
Non, c'est les médias.
Non, on n'a pas cité un média là.
Mais la liberté de presse, Ça, c'est de ça.
Non, on a dit d'expression.
D'expression. Mais la liberté de presse s'inscrit dans la liberté de presse.
Oui, mais Ambroise,
faut. Non, on ne peut pas
la presse.
Attendez. Moi, c'est moi qui ai la parole. Vous avez déjà fini. Je dis que ce n'est pas moi qui ai la parole.
On est d'accord.
Un confrère qui vient demander.
On est d'accord que on n'a pas la parole.
Une menace sur les médias. D'accord. Je ne suis pas d'accord.
Ok, merci, Ambroise. Oui, Jean.
Oui, moi, je vais juste revenir sur un article que nous avons fait à la une concernant l'Union des conducteurs indépendants du Togo, l'UNICITO, qui a mis en place son syndicat au mois de novembre et qui a démarré ses activités le samedi dernier, et relevé que le monde syndical au niveau des transports a beaucoup de soucis. Les anciens syndicats exploitent beaucoup la base. Ce qui fait qu'à un moment donné, la base, aujourd'hui, a décidé de s'unir pour créer nos syndicats.
D'accord.
Et les autres sont énervés, dérangés, notamment l'UNCRIT, qui est en train de créer des problèmes, véritablement que l'État essaie de regarder ce qui ne va pas.
D'accord.
Et qu'on laisse les syndicats vaquer librement à leurs activités.
D'accord. Merci beaucoup Jean, le grand Polorini, pour avoir participé à ce débat. Je rappelle que vous êtes le directeur de publication du journal Canal D, Michel Yaoutsadza. Merci d'être passé aussi dans cette émission. Je rappelle que vous êtes le directeur de publication du journal Ouara, les vainqueurs. Elom Atisobe, merci d'être passé, directeur de publication du journal La Nouvelle Tribune. Et merci à Ambroise Ponzo, Yao bien sûr, nous sommes au jeudi bien sûr, et vous êtes le directeur de publication du journal des Guadiens. Merci chers confrères, merci à vous tous qui nous avez suivis, puisque nous sommes à la fin de cette émission. Merci à vous qui nous avez appelé aussi. Michel Kokou Tomega a assuré la mise en onde, la mise en ligne a été assurée par Jérôme Dakoucha. Je suis Pascal Loussou, je vous retrouve demain vendredi à partir de 11h pour un nouveau numéro de l'émission Club de la Presse. D'ici là, portez-vous bien, au revoir.